Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, et ce n'est probablement pas la dernière fois, c'est la politique économique de Donald Trump qui a inspiré le sujet de cette émission. Le nouveau président américain considère que l'ouverture de son pays au commerce international contribue à appauvrir les travailleurs américains. En France, la candidate du Front National, en tête des sondages pour le premier tour de la prochaine élection présidentielle, veut aussi fermer les frontières et faire de ce qu'elle appelle la priorité nationale, l'alpha et l'oméga de sa politique économique. Tout cela va à rebours de l'évolution du monde depuis des décennies. Le commerce international n'a cessé de se développer. Alors a-t-il vraiment appauvri les populations ? Ou au contraire, le commerce mondial est-il nécessaire au bien-être des peuples ? Telles sont les questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Sébastien Jean, vous avez une double casquette, vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agricole, et vous dirigez le CEPI, l'un des principaux centres de recherche économique français, où vous menez des recherches sur le commerce international. Vous avez d'ailleurs signé un chapitre consacré à une brève histoire des mondialisations commerciales dans un petit livre publié récemment par le CEPI aux éditions La Découverte, un livre qui s'appelle succinctement Économie mondiale 2017. Dans cette brève histoire des mondialisations commerciales, que dites-vous brièvement ?
Brièvement, nous essayons de remettre en perspective l'époque actuelle, cette époque de mondialisation même qu'on a appelée d'hypermondialisation, dans le temps long, en l'occurrence deux siècles, pour montrer que d'une part la mondialisation c'est pas un phénomène irréversible, il y a des flux et des reflux. D'autre part que le politique est un peu relation économique, ce que l'oxygène est à l'homme, c'est-à-dire que quand tout va bien du point de vue politique, on se rend pas compte que c'est important, et puis dès qu'il y a une tension, pour le coup, on s'aperçoit que sans, paix dans les relations politiques, rien n'est possible en termes d'échanges économiques. C'est une façon aussi de montrer que ce qui est, par exemple, construction institutionnelle autour des relations commerciales institutionnelles est important, mais vient souvent après des prérequis indispensables qui sont une certaine stabilité dans les relations internationales politiques et puis un progrès technique dans ce qui est transports internationaux ou communication.
Nous en parlerons bien sûr dans cette émission, mais avec nous dans ce studio, Vincent Vicard. Bonjour Vincent Vicard.
Bonjour.
Vincent Vicard, vous enseignez l'économie à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes un spécialiste des questions relatives au commerce international et vous avez également contribué à la parution aux éditions Ecolinks d'un livre intitulé « Petit manuel économique anti-FN ». C'est donc un livre engagé, est-ce qu'il y est question de commerce ?
Bien sûr qu'il y est question de commerce. L'idée de ce livre, c'est d'analyser le programme du FN et de pas de l'analyser mesure par mesure, mais de le remettre en perspective et de pointer les incohérences. Et notamment, effectivement, une grande partie du discours de Marine Le Pen a trait aux questions de commerce international, de protectionnisme et de sortie de l'Union européenne ou de la zone euro.
Et qu'en dites-vous ? En deux mots ?
Notamment sur la politique commerciale, ce qu'on pointe, c'est l'incohérence de vouloir à la fois lever des recettes budgétaires par l'intermédiaire des droits de douane et d'utiliser l'instrument protectionniste comme principale mesure de politique industrielle. Un seul instrument ne permettant pas de faire les deux objectifs.
Alors, au cours de cette émission des reportages, bien sûr, nous irons d'abord à Montréal rejoindre David Savoie, qui nous dira l'inquiétude des exportateurs canadiens face à la nouvelle politique américaine. Puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous rejoindrons à Pékin Heike Schmidt, qui a rencontré des Chinois qui, pour rien au monde, ne renonceraient aux produits d'importation. Enfin, nous verrons si le commerce de la bauxite a enrichi les citoyens guinéens. Ce sera un reportage de Coralie Pierret à Conakry. Donald Trump veut donc rendre aux travailleurs américains des emplois, des usines qui leur auraient été volées par d'autres pays, par d'autres salariés. Les derniers chiffres du commerce extérieur américain ont d'ailleurs, semble-t-il, amené de l'eau à son moulin. En 2016, le déficit commercial américain a atteint son plus haut niveau depuis 2012 au profit de la Chine et de l'UE, l'Union européenne. Alors je vous pose la question à tous les deux. Le commerce international dans lequel sont engagés les Américains nuit-il à la puissante Amérique ? Sébastien, Jean.
Les Américains sont dans une situation très particulière à beaucoup d'égards par rapport au commerce, et précisément le déficit commercial qui est énorme est une spécificité qui est liée aussi au rôle des États-Unis, parce que ce sont eux qui détiennent la monnaie de réserve internationale. Tout autre pays qui, comme les États-Unis, aurait eu constamment depuis 1980 un déficit de la balance courante qui est entre 2 et 6% du PIB aurait eu un problème de financement.
Le déficit de la balance courante, c'est quoi ?
Donc, déficit de la balance courante, c'est en fait, ça correspond à l'épargne nette de la nation. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le solde commercial dedans, il y a aussi le commerce de services et puis tout ce qui est transfert ou revenu par rapport à l'étranger. Et donc, ça correspond finalement au solde des transactions avec l'étranger. Donc, quand on est en déficit courant comme les États-Unis, ça veut dire que simplement on consomme plus qu'on épargne. Hein. Et ça correspond à un déséquilibre macroéconomique. D'une façon générale, quand un pays se trouve dans une situation déséquilibrée comme celle-ci, ça va avoir tendance à peser sur son taux de change, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir un problème de financement. Pour les États-Unis, ça n'est pas le cas, essentiellement parce que leur monnaie, le dollar, est la monnaie de réserve internationale. Comme on est passé depuis la fin des années 70 dans un système de change flottant, les autres pays, en particulier tous les pays émergents, ont besoin de détenir des réserves en dollars importantes. C'est une sorte d'assurance pour eux par rapport à une crise de financement extérieur, à une fuite des capitaux notamment. Oui. Et donc, les pays émergents, les uns après les autres, enfin massivement, ont accumulé des réserves en dollars depuis les années 80. Et même quand on fait des estimations actuellement, on trouve que pour la plupart d'entre eux, ils ont un niveau de réserve en dollars qui est en dessous de ce qui serait optimal de détenir dans une logique juste d'assurance contre un choc externe.
Ce qui veut dire que, en accumulant des dollars, ces pays-là aident les États-Unis à lutter contre le déficit de ce que vous appelez leur balance courante.
Non, ils permettent aux États-Unis de vivre très bien avec un déficit qui se perpétue. Et donc, ce déficit, il est lié à un déséquilibre macroéconomique, c'est-à-dire que les Américains épargnent très peu. Il y a un taux d'épargne très faible aux États-Unis, trop faible en fait. Simplement, dans d'autres pays, il y aurait eu un mécanisme d'ajustement automatique lié à ce déficit courant, à la dévaluation de la monnaie, etc. Le statut de réserve internationale du dollar a finalement inhibé ce mécanisme d'ajustement automatique. Mmh. Et donc, c'est un problème avant tout macroéconomique. Si on l'attaque par le biais de d'outils commerciaux, ça va pas résoudre, ça va pas soigner le mal à sa cause, disons, le déséquilibre en tout cas.
Mais vous ne répondez pas à ma question, c'est le commerce international, est-ce qu'il nuit aux États-Unis ?
Alors, en effet, c'est le deuxième temps, est-ce qu'il nuit, tout dépend l'optique dans laquelle on se place, c'est ce déficit commercial en soi, c'est pas nécessairement un problème, c'est-à-dire que ça permet aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens. Maintenant, le corollaire, c'est que ça a contribué à la chute de l'activité dans le secteur manufacturier américain, parce que justement les Américains consomment une grande partie des produits qu'ils consomment sont importés. Et donc, dans cette baisse de l'emploi manufacturier, dans cette baisse des emplois col bleu relativement bien payés, en particulier dans certains états industriels, ce qu'on appelle la Rust Belt, hein, la ceinture de la rouille, et c'est vrai, le déficit commercial a joué un rôle significatif. Non pas dominant, hein, d'après les estimations les plus récentes, c'est à peu près un quart de la baisse de l'emploi manufacturier sur les 20 dernières années aux États-Unis, qui est peut-être attribué au commerce.
Vincent Vicard, je vous pose la même question. Est-ce que le commerce international nuit à l'économie américaine ?
Il me semble que le commerce, on attribue au commerce international un rôle beaucoup plus important que ce qu'il a effectivement joué. Notamment, la disparition d'un certain nombre d'emplois manufacturiers a beaucoup plus trait au progrès technique, donc à l'amélioration de la productivité dans un certain nombre d'activités qui a amené à une automatisation d'un certain nombre de tâches et donc à la disparition d'un certain nombre d'emplois, et notamment d'emplois emplois assez bien payés, effectivement, dans le secteur manufacturier. La délocalisation d'un certain nombre d'industries, notamment en Chine, a joué un rôle supplémentaire, mais il n'empêche que toute la disparition de l'emploi manufacturier aux États-Unis ne peut pas être amenée à la concurrence chinoise, qui a joué un rôle, effectivement, mais l'outil commercial ne permettra pas de faire revenir les emplois qui étaient présents dans les années 80 aux États-Unis, puisque ces emplois ont disparu essentiellement à cause de ce progrès technique.
Alors, pour faire revenir les emplois, Donald Trump veut imposer aux entreprises de revenir aux États-Unis, il veut fermer les frontières, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme. Il a été élu sur une promesse de limitation du commerce entre les États-Unis et le reste du monde. Cela concerne en premier lieu le Mexique, on en a parlé dans une émission il y a 2 semaines, mais aussi au nord, le Canada, et à Montréal, les exportateurs s'inquiètent. C'est un reportage éco-dissier, d'ailleurs, signé David Savoie.
Bienvenue chez Gelbert Automatisation, en banlieue de Montréal, où travaillent une cinquantaine de personnes. Dans l'atelier, des ouvriers assemblent des pièces. Une partie de la production de cette firme d'ingénierie est achetée par des clients des États-Unis. Les machines fabriquées ici font partie de chaînes d'assemblage dans le domaine pharmaceutique et alimentaire. Le directeur général de la compagnie, Steve Boissonneau.
Nous, c'est ça, c'est un produit très niché. Peu de compétition, donc je pense pas qu'une compagnie ou même un pays peut ne pas aller voir à l'extérieur pour faire ces achats-là.
Ce créneau permet à la firme québécoise d'attirer des clients américains. Mais pour plusieurs autres compagnies canadiennes, le nouvel arrivant à la Maison-Blanche signifie beaucoup d'incertitudes. Dès son premier jour au pouvoir, Donald Trump a demandé à rouvrir les négociations de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Depuis l'entrée en vigueur de cet accord en 1994, les liens entre les voisins américains et canadiens se sont approfondis, avec l'abolition de tarifs douaniers qui oscillaient entre 4 et 9%. En 2015, les échanges entre les deux pays atteignaient près de 630 milliards d'euros. L'hypothèse d'une réouverture de l'accord est un revirement de situation pour Guillaume Hébert de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, un think tank de gauche.
De parler à certaines personnes qui, présentement, pendant les organisations de travailleurs, par exemple dans les syndicats, des gens qui, présentement, vont sentir le besoin de défendre le libre-échange alors qu'ils l'ont toujours combattu parce qu'ils voient bien les contre-coups économiques terribles que pourraient avoir les politiques de Trump. Parce que ça, c'est l'autre problème. Qu'est-ce qui va vraiment être appliqué? Jusqu'où est-ce qu'on peut prendre le discours qu'on entend comme quelque chose de concret?
Plusieurs font aussi valoir que cette valse économique entre le Canada et les États-Unis se danse à deux et que de nombreux États américains dépendent du commerce avec le grand voisin du Nord. C'est aussi le genre d'argument qu'a récemment fait valoir le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.
Ça fait plusieurs semaines que mon ambassadeur et notre équipe sont engagés avec la nouvelle administration américaine. On souligne, par exemple, que oui, c'est vrai que des millions d'emplois de la classe moyenne au Canada dépendent du commerce avec les États-Unis, mais on leur démontre aussi qu'il y a des millions d'emplois de la classe moyenne aux États-Unis qui dépendent du commerce avec le Canada.
Signe que la chose est prise au sérieux par Ottawa, le gouvernement canadien a envoyé une délégation de ministres à Washington. Et le premier ministre canadien s'y rendra aussi, notamment pour évoquer l'épineux dossier. De son côté, l'entourage de Donald Trump a laissé entendre que la relation américano-canadienne ne serait pas mise à mal par ces nouvelles négociations de l'ALENA.
Un reportage signé David Savoie à Montréal, Sébastien Jean. 630 milliards d'échanges entre les deux pays, est-ce que ça se défait ou est-ce que ça se limite aussi facilement que semble le penser Donald Trump?
Non, en effet, c'est la tyrannie de la géographie. Pour le Canada, les États-Unis sont un partenaire commercial évident et absolument incontournable. D'ailleurs, de l'ordre de 3/4 de leurs exportations se font à destination des États-Unis. Il faut ajouter également qu'on parle beaucoup de l'ALENA, mais en fait, le traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada avait un peu précédé. Il date de 1989. C'était d'ailleurs le premier traité important, disons, bilatéral signé par les États-Unis. Ils en avaient signé avant avec Israël, mais le premier traité important. Donc, c'est absolument crucial. On comprend l'inquiétude des Canadiens par rapport à cette source d'instabilité, même si ça a été bien rappelé dans votre reportage, Donald Trump a dit à plusieurs reprises, en gros, l'ALENA, ils veulent renégocier, mais c'est par rapport au Mexique, par rapport aux Canadiens, ils trouvent que ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il n'y a pas de déséquilibre. Il me semble même que les États-Unis sont légèrement excédentaires dans leur commerce bilatéral par rapport au Canada, si ma mémoire est bonne. En tout cas, il n'y a pas de déséquilibre massif. Bon, et puis, il n'y a pas d'écart important de niveau de développement. Donc, ça ne pose pas le même genre de problématique. Bon, cela étant, on voit bien que l'approche de Donald Trump, elle est purement non coopérative. C'est-à-dire, est-ce que je peux utiliser mon pouvoir de négociation, ma puissance commerciale ou économique ou même diplomatique pour extraire des avantages au détriment de mon partenaire. Donc s'il peut le faire, il le fera sans doute. Donc je comprends l'inquiétude des Canadiens. L'autre chose, c'est que au fur et à mesure, depuis donc plus de 20 ans, plus de 25 ans finalement, que les deux pays sont en accord commercial, il y a un certain nombre, ce qu'on appelle de chaînes de valeur, hein, donc d'entreprises qui ont organisé leur processus de production de part et d'autre de la frontière. Tout ça, ça marche bien, ça permet d'utiliser au mieux les avantages de chaque région, de chaque sous-région, en particulier dans l'industrie automobile qui est très présente donc autour de la région des Grands Lacs, évidemment. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis en place qui serait très coûteux de désorganiser. Et même, disons, même si on mettait des obstacles qui paraissent relativement limités au franchissement de la frontière, étant donné qu'il y a souvent des franchissements de frontières qui sont répétés de multiples fois au cours du processus de fabrication d'une automobile, par exemple, ça pourrait coûter assez cher, disons, au constructeur.
Vincent Vicard, vous seriez un ouvrier canadien ou un chef d'entreprise canadien dont l'entreprise exporte aux États-Unis, vous seriez inquiet ?
Bien sûr, il y a une grande incertitude, surtout, ça a été rappelé dans le reportage. Donald Trump a fait beaucoup de déclarations concernant le commerce international et en particulier l'ALENA. Lesquelles vont être appliquées, ça reste encore très incertain. Du point de vue d'un exportateur ou d'une entreprise canadienne, le marché américain, par la géographie, représente son principal marché à l'exportation. Alors que dans le sens inverse, effectivement, les États-Unis étant un très grand pays, représentant presque un cinquième du PIB mondial, le Canada représente un marché beaucoup moins important. Donc il y a effectivement une asymétrie qui pourrait bénéficier à Donald Trump si il veut renégocier cet accord. Par contre, il y a effectivement une vraie différence entre les déclarations de Donald Trump vis-à-vis du Canada et vis-à-vis du Mexique. On s'aperçoit que vis-à-vis du Mexique, il y a des déclarations beaucoup plus fortes avec la menace de mettre en place des droits de douane. Ça a été évoqué jusqu'à 35% de droits de douane sur les importations en provenance du Mexique. Sachant qu'effectivement, les niveaux de développement sont assez différents entre les États-Unis et le Mexique, contrairement au Canada. Et on sait que le commerce international, ça génère des gains au niveau agrégé pour les économies, mais ça a aussi des effets sur les inégalités.
Au niveau agrégé, ça veut dire quoi ?
Pour les économies, on peut estimer que le gain, par exemple, pour les États-Unis de l'ALENA, il a été estimé autour de 0,5% du PIB. Par contre, ça ne veut pas dire que tout le monde, tous les citoyens américains gagnent au commerce avec le Mexique. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Effectivement, il y a un certain nombre de perdants qui voient notamment leur emploi délocalisé au Mexique, remplacé par des entreprises au Mexique et qui subissent, ils doivent changer de secteur, changer d'entreprise et ils subissent une perte de revenus dans le long terme qui doit être compensée d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est le rôle des politiques nationales.
Est-ce que le commerce a représenté une arme importante de croissance économique pour les États-Unis ? Est-ce que ça a contribué l'exportation américaine à ce que ça devienne la première puissance économique mondiale ?
Alors, ça dépend jusqu'où on remonte. Si on prend l'histoire économique
aussi
longue...
Aussi loin que vous voulez.
Alors, si on reprend l'histoire économique longue des États-Unis, si on revient au début du 19e siècle, les États-Unis ont été plutôt un pays protectionniste, initialement. Notamment, si on revient à Alexander Hamilton, une des parties du programme économique à cette époque-là, c'était la mise en place de droits de douane, notamment sur les importations britanniques. Donc, ces importations britanniques de biens manufacturés, qui étaient le centre manufacturier du monde à l'époque, le Royaume-Uni, et avec l'objectif de pouvoir développer une industrie locale aux États-Unis au coût, à un coût certain, puisque les importateurs, et notamment le sud des États-Unis, devaient payer plus cher ces biens importés. Mais l'objectif derrière ces droits de douane, c'était de permettre de protéger l'industrie locale aux États-Unis et de permettre de développer cette industrie et de changer l'avantage comparatif des États-Unis qui était plutôt spécialisé.
Comparatif.
Donc,
c'est quoi ?
Alors, l'avantage comparatif, les industries dans lesquelles les pays sont spécialisés ont un avantage par rapport au reste du monde.
Eh bien, c'est sur cette définition toute professorale que se termine la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons dans quelques minutes, toujours dans Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, pour parler économie et commerce mondial. À tout de suite, après un flash d'actualité.
Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré au lien entre le commerce mondial et le bien-être des peuples. Deux invités pour en parler, Vincent Vicard, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, et Sébastien Jean, directeur du CEPI, un des grands centres de recherche économique français. Au cours de la première partie de l'émission, nous nous sommes surtout intéressés aux États-Unis, à la politique de Donald Trump et aux craintes que celle-ci faisait naître chez les voisins canadiens. Alors une question un peu générale que je vous soumets à tous les deux pour nous remettre dans le bain. Le commerce mondial, le commerce international, comment est-ce qu'on le mesure et quels sont les éléments qu'il compose, Sébastien Jean ?
Voilà, c'est une vaste question. Comment est-ce qu'on le mesure ? Ça devient, disons, de plus en plus compliqué parce que de plus en plus, on a ce qu'on appelle un fractionnement des chaînes de valeur. C'est-à-dire que globalement, avant, on produit le commerce international, c'était pouvoir consommer ailleurs, dans un autre pays, un produit.
Une voiture construite en France et vendue en Argentine.
On avait une séparation du pays de production et de consommation. Puis après, on s'est mis un peu à, éventuellement, dans certains cas, commercer des biens intermédiaires. Et maintenant, de plus en plus, on a des produits qui sont dont la production est éclatée entre beaucoup de pays différents. Et à ce moment-là, ça pose un problème de mesure du commerce international parce que le produit va franchir des frontières plusieurs fois et il va subir une petite transformation à chaque fois. Et donc, si on fait pas attention à ça, on risque d'avoir de compter plusieurs fois la même chose, de vendre plusieurs fois le même cheval d'une certaine façon. Ça amène à faire évoluer les façons de mesurer le commerce international et à mesurer la valeur ajoutée qui traverse les frontières et non plus seulement la valeur produite. Donc, cela étant dit, la métrique évidente pour la mesure du commerce, c'est mesurer les importations ou les exportations en pourcentage du PIB mondial. Et là-dessus, quand on regarde les évolutions, disons, juste sur les quelques décennies récentes, on voit des évolutions spectaculaires, c'est-à-dire depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Fin 45,
on a eu des exportations mesurées en proportion 45. Du PIB mondial qui sont restées en fait relativement stables jusqu'au milieu des années 60. Ensuite, elles ont quasiment doublé entre 65 et 1980, principalement du fait de la révolution des containers qui ont énormément diminué les coûts du transport maritime. On est arrivé à entre 15 et 20% de taux d'ouverture au niveau mondial, la proportion des exportations dans le PIB mondial au début des années 80. C'est resté relativement constant au cours des années 80 jusqu'au tout début des années 90. Et ensuite, de nouveau, on a eu une explosion, un doublement quasiment. On est passé à peu près à 30% en 2007.
30% de...
Les exportations sont passées à 30% du produit intérieur brut mondial au moment de la crise financière. Donc, il y a eu un doublement. Donc, c'est à nouveau, à l'échelle historique, une évolution vraiment spectaculaire, essentiellement issue de trois facteurs, disons. D'abord, un facteur géopolitique, la fin de la guerre froide, une sorte de Pax Americana, une certaine pacification dans les relations économiques, dans les relations politiques internationales, pardon. Ensuite, une révolution technologique, les technologies de l'information et de la communication qui ont énormément diminué les coûts de coordination distants. Et puis enfin, les facteurs institutionnels, financiers, avec la libéralisation financière de la fin des années 80, début des années 90, commercial aussi avec l'OMC et puis la multiplication des accords de libre-échange.
Vincent Vicard, ces chaînes de valeur dont parlait Sébastien Jean à l'instant, c'est-à-dire le fait qu'un produit passe 25 fois d'une frontière à l'autre en agrégeant à chaque fois un peu de valeur, un peu plus de produits, un peu plus de fabrication, c'est voulu par des sociétés exportatrices ou importatrices, par des multinationales, pour abaisser les coûts, pour profiter au maximum des main-d'œuvre. Est-ce que ça n'explique pas une certaine instabilité économique, une montée des inégalités ?
Alors, pas nécessairement en tant que tel. C'est un des autres aspects, d'ailleurs, de la mondialisation. C'est le rôle des firmes multinationales, qui est particulièrement important à partir du milieu des années 90. Et c'est ces firmes multinationales qui représentent une large part de ces chaînes internationales de production. Ça change effectivement le rôle d'un certain nombre de pays dans les chaînes de production, puisqu'on se retrouve dans une situation où certains stades de production peuvent être produits n'importe où dans le monde. Et donc, notamment, tout ce qui concerne l'assemblage ou des activités manufacturières, les entreprises multinationales peuvent mettre en concurrence différents sites de production sans avoir nécessairement besoin, comme avant, d'avoir un grand marché, d'avoir une main-d'œuvre qualifiée qui puisse faire l'ensemble du stade de production. Et donc, effectivement, ça rend plus incertain la localisation de la production et ça change aussi les incitations à accueillir des firmes multinationales pour un certain nombre de pays. On voit par exemple le Vietnam qui a mis en place un certain nombre de mesures pour accueillir les multinationales et les activités d'assemblage qui deviennent trop chères en Chine. Et donc on a effectivement des possibilités de délocalisation beaucoup plus importantes du point de vue des multinationales.
Donc on joue avec la production, on joue avec la vie des gens aussi, Sébastien Jean.
En l'occurrence, la logique sous-jacente à ce fractionnement de plus en plus fin des chaînes de valeur, c'est une logique d'efficacité. C'est-à-dire que l'exemple typique, c'est celui du téléphone, mais on pourrait parler de voiture aussi ou d'aéronautique. Un téléphone, un smartphone moderne, c'est au fond une sorte de Lego composé ou de mécano composé d'un certain nombre d'éléments qui, chacun, sont extrêmement sophistiqués. Et donc, il faut vraiment pousser l'investissement très loin, la spécialisation très loin pour pouvoir produire, par exemple, un écran tactile, et ça, il n'y a que les Japonais qui le font, en gros, pour pouvoir produire des optiques performantes et suffisamment petites qui puissent être intégrées dans les smartphones. La plupart du temps, c'est les Allemands qui vont faire ça, ou bien la puce électronique ou la mémoire, et là, ça va être les Américains ou les Coréens. Donc, cette logique de spécialisation, c'est avant tout une recherche d'efficacité et de moindre coût. Ensuite, comment ça rejaillit sur la vie des gens et sur les conditions économiques dans les différents pays? Donc ça, d'une part, ça dépend des politiques des gouvernements, je pense qu'il faut le redire, c'est-à-dire que le phénomène de colère contre la mondialisation aux États-Unis, il est aussi dû à l'incapacité des gouvernements américains à mettre en place des politiques redistributives, de mettre en place des politiques sociales adaptées. Est-ce que quand on est comme ça inséré dans l'activité, dans le commerce mondial, est-ce que on est aussi exposé à des chocs externes? C'est vrai, effectivement, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a deux effets au fond qui peuvent s'opposer, c'est-à-dire si j'exporte un peu partout dans le monde, j'ai un effet de diversification de mes marchés. Donc si ça va moins bien chez moi, je peux espérer que ça va aller mieux en Chine et qu'un risque va contrebalancer l'autre. Mais c'est vrai aussi que je suis exposé à d'autres risques. D'une part, s'il y a un conflit politique ou commercial avec certains des pays vers lesquels je commerce. D'autre part, parce qu'il peut y avoir des aléas économiques ou climatiques dans un certain nombre de mes pays partenaires. Et en plus, je les connais moins bien que je ne peux anticiper les aléas chez moi. Donc, voilà, il y a un peu l'ensemble. Ce qui a peut-être illustré de façon la plus frappante la fragilité, dans une certaine mesure, des chaînes de valeur, ça a été notamment l'épisode de 2011 où il y a eu le tremblement de terre et le tsunami au Japon, et puis en même temps un épisode d'inondation en Thaïlande. Et ça a immobilisé les chaînes de production jusqu'au Mexique. Hein, simplement parce qu'il y avait des intrants dans une industrie électronique qui n'étaient produits que dans ces endroits-là. Donc on voit qu'il y a une sorte d'hypersensibilité de cette chaîne où tous les éléments sont interdépendants.
Une belle illustration de ce que vous disiez, l'augmentation du commerce mondial, on la trouve probablement en Chine, avec l'appétit des consommateurs chinois pour les produits venus de l'étranger. La nouvelle classe moyenne chinoise raffole des voitures allemandes ou des produits alimentaires étrangers, et pour rien au monde, elle n'y renoncerait. C'est un reportage d'Ecodici Eco d'ailleurs, signé Heike Schmidt, à Pékin et dans la banlieue de Pékin.
À côté d'une grosse cylindrée de General Motors avec un drapeau américain fixé sur le rétroviseur, quelques hommes s'affairent à astiquer d'imposantes berlines alignées sur un parking de la banlieue pékinoise. Des modèles étrangers rutilants que Wei Youqi, un sexagénaire qui a fait fortune dans l'immobilier, caresse d'un regard admiratif.
Je voue un culte à tout ce qui vient d'outre-mer. Ils ont une longueur d'avance sur nous. Et maintenant que nous avons de l'argent, nous en profitons. Grâce au commerce et à la politique de l'ouverture, la Chine importe beaucoup de voitures de l'étranger, des techniques avancées.
Les voitures de luxe ont toujours la cote en Chine, nous assure Li Qi, confortablement installé dans son fauteuil camping en attendant le prochain client.
Ceci est une Toyota de 7 places. Elle vaut 110 000 euros. Ça se vend facilement. L'ouverture a permis aux Chinois de s'enrichir. Si on revenait en arrière, comme dans les années 70, avec des frontières fermées, on vivrait alors comme des Nord-Coréens.
Jamais les Chinois aisés ne renonceront à consommer des produits fabriqués à l'étranger, voire des produits américains. Zhang Zhen, vendeur à USTAR, en est convaincu. Même une guerre commerciale avec les États-Unis n'y changerait rien.
On trouvera d'autres moyens pour les importer. On ne boycottera pas les produits américains. Nous vendons 600 voitures étrangères chaque année, dont 50% sont importées aux États-Unis. La Chine ne représente peut-être pas 50% du marché de l'automobile, mais 30%, c'est sûr.
Zhang Bo-shu, 3 ans, est déjà un grand adepte de sa voiture allemande. Dans l'appartement huppé de ses parents, il roule sur sa BMW en plastique, importé comme tous les objets de consommation de la famille.
C'est avec ma grossesse que j'ai commencé à consommer des produits étrangers massivement. Je me dois d'acheter la meilleure qualité pour mon fils unique. Depuis le scandale du lait frelaté, on sait que même les aliments sont contrefaits en Chine. À qui puis-je encore faire confiance ici? Mes amis font comme moi. On n'achète plus de produits locaux et on commande tout en ligne.
Yang Yu, trentenaire aux ongles impeccablement vernis, fait partie de ces quelques 500 millions de Chinois de la nouvelle classe moyenne. Une génération qui dépense sans compter, de préférence pour acheter des marques étrangères.
Voici mon mixeur américain à 550 euros. Et là, mon nouvel aspirateur Dyson, la poussette de bébé. Et regardez dans mon congélateur, les crevettes viennent d'Argentine, le bœuf, on l'achète au rayon des produits importés au supermarché international. Et il y a aussi les vitamines pour mon fils commandées en Australie et le sirop pour la toux allemand.
La jeune maman ne se soucie pas de la montée du protectionnisme dans le monde. Aucun pays, dit-elle, ne pourra se permettre de froisser les consommateurs chinois, force motrice de la croissance mondiale.
C'était un reportage signé avec Schmitt à Pékin. Nous parlons commerce international et nous demandons si les relations commerciales internationales sont indispensables au bien-être des peuples. Deux invités pour en parler, Sébastien Jean, directeur du CEPI, et Vincent Vicard, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Sébastien Jean, je voulais sourire, prendre des notes en écoutant ce reportage. Une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est invraisemblable aussi à entendre ces consommateurs chinois de la classe moyenne.
Ça serait potentiellement extrêmement coûteux. En effet, il y a plusieurs formes de conflits commerciaux qui sont envisageables. C'est-à-dire que je ne prends pas pour argent comptant, disons, les déclarations de Trump quand il parle d'imposer 45% de droits de douane sur toutes les importations chinoises. Je pense que c'est une façon très, très coûteuse disons, ce serait un conflit qui, effectivement, serait assez dévastateur. En revanche, je pense que il est très probable que les États-Unis, aillent à la confrontation avec les Chinois, mais de façon un peu plus sélective. C'est-à-dire, au lieu de taxer tous les produits, qu'ils aillent échafauder des arguments et utiliser des outils spécifiques, comme par exemple les sanctions anti-dumping, sur certains produits, éventuellement justifier des allégations de manipulation de la monnaie, ce qui est, en l'occurrence n'est pas fondé en ce moment en plus, pour sanctionner tel ou tel secteur. Donc je crois plutôt à des mesures effectivement agressives, mais plus sélectives, que à un conflit général. Donc après, on va voir ce qui se passe. Mais voilà. Ensuite, c'est peut-être plus inimaginable pour les Chinois que pour les États-Unis, parce qu'effectivement, c'est un marché majeur pour les Chinois. Pour les États-Unis, le marché chinois, il est important, mais pas tant que ça. Au fond, c'est surtout un fournisseur. Il y a vraiment un déséquilibre très fort. Hein. Il faut savoir que le déséquilibre commercial des États-Unis par rapport à la Chine est de l'ordre de 350 milliards de dollars par an.
Donc, c'est-à-dire que les Américains vendent beaucoup plus aux Chinois qu'ils ne leur achètent.
Ah non, ils leur achètent énormément plus que ce qu'ils leur vendent. Donc pour les Américains, c'est avant tout un fournisseur plus qu'un débouché. Par ailleurs, il y a beaucoup d'investissements étrangers en Chine, mais les Américains, ils sont relativement peu représentés. C'est beaucoup plus les Européens que les Américains. La Chine représente une part relativement faible des investissements directs américains à l'étranger.
Vincent Vicard a écouté ce reportage très imagé d'Eike Schmidt à Pékin. On avait l'impression que le commerce mondial, le commerce international, il arrivait dans le frigo de ces consommatrices chinoises, que même le petit garçon de 3 ans, il avait une BMW importée d'Allemagne sur laquelle il roulait dans l'appartement. Comment imaginer la vie de ces gens-là si demain les frontières se fermaient ?
C'est effectivement un des gains qui est un gain très diffus au commerce international, c'est le fait d'accéder à de nouvelles variétés, de nouvelles marques de voitures, de nouvelles marques de jouets, de nouveaux produits alimentaires, qui est justement distribué sur tous les consommateurs et qui est assez diffus et qui explique aussi pourquoi les économistes en général ont tendance à pointer les bénéfices du commerce international, qui en général justement sont assez peu visibles, à part effectivement dans ce reportage où c'est extrêmement visible pour les consommateurs riches chinois, puisqu'on est vraiment dans un cadre très spécifique de riches consommateurs chinois. Mais de manière plus large, et notamment dans le cas des Américains, effectivement les importations chinoises ont représenté un gain de pouvoir d'achat, puisqu'ils ont pu accéder à plus de biens, mais surtout à des biens beaucoup moins chers, donc à une réduction du prix de leur consommation. Et donc, du point de vue américain, en tout cas, c'est plutôt l'inverse de ce qu'on a entendu. C'est plutôt les consommateurs pauvres, à bas revenus, qui bénéficient le plus de cette baisse de revenus.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Qui bénéficient d'une baisse des coûts.
Une baisse qui bénéficie, en tout cas en tant que consommateur, de l'accès à des produits moins chers. En tant que travailleur, c'est une autre question. Mais il y a toujours cette tension entre les deux.
Sébastien Jean.
Oui, je pense effectivement il y a cet aspect, disons, un peu paradoxal, qui est que les gains de pouvoir d'achat liés aux importations, ils ont effectivement été plus élevés parmi les classes modestes, parce que c'est surtout des biens de consommation, parce que les biens
ont là, on une parle part toujours des États-Unis.
Aux États-Unis, les biens ont une part plus importante dans la consommation des ménages modestes que dans celle des ménages aisés où les services sont plus importants. Maintenant, ce qu'il faut souligner effectivement, ça a été un peu dit, c'est que en Chine là, le reportage effectivement vraiment, je trouve, est très intéressant. Mais il faut bien souligner qu'il focalise sur, en l'occurrence, des personnes qui sont très riches dans la société chinoise, qui elle-même est très inégalitaire. Donc, il y a aussi des gens, beaucoup de paysans encore en Chine. Hein, le taux d'urbanisation en Chine est inférieur, est entre 55 et 60%. Donc, il y a plus de 40% de la population qui vit à la campagne. Et ceux-là, je pense que dans leur congélateur, on ne va pas beaucoup trouver de crevettes d'Argentine. Donc, il y a ce côté vraiment aussi, hein, ce côté très différencié en Chine avec un fort degré d'inégalité. C'est un pays qui est très inégalitaire maintenant, à la fois en termes de revenus et puis une inégalité géographique aussi. La Chine côtière est celle qui vraiment a été tirée vers le haut par ces échanges commerciaux.
Alors, le commerce mondial, il s'est aussi fait sur le dos de populations entières. Je remonte très loin, hein, mais je pense à l'esclavage, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que cette question de l'esclavage, des dizaines de millions d'êtres humains, d'Africains en particulier, transportés dans des conditions invraisemblables aux États-Unis vers les Caraïbes, est-ce que ça a été une fondation importante de l'expansion commerciale internationale ?
Il y a eu du commerce depuis beaucoup plus longtemps que ça, et dès les civilisations sumériennes, des traces de commerce à une échelle géographique un peu importante, hein, simplement parce qu'il y avait un commerce d'indisponibilité. Les régions n'avaient pas forcément accès à tous les biens, et même par exemple en Mésopotamie, dans le berceau de l'agriculture, où on vivait bien en termes de nourriture, on avait ce qu'il fallait, même en termes de laine, etc. On n'avait pas forcément les ressources minières pour faire des armes en bronze.
Donc c'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif.
Là, en l'occurrence, c'est plutôt du commerce d'indisponibilité. C'est-à-dire, c'est même pas que je suis plus performant dans un domaine que dans un autre. C'est vraiment qu'il y a une partie de ce dont j'ai besoin que je n'ai pas, qui n'est pas disponible chez moi. Donc, moi, je dissocierai les deux. Maintenant, il est vrai que l'esclavagisme a fait partie du commerce depuis très longtemps, et d'ailleurs bien avant la traite négrière. et que ça a été un élément important en particulier dans l'organisation du commerce triangulaire, en particulier au XVIIIe siècle, entre le XVIIe et le XIXe, disons en particulier au XVIIIe. Voilà, donc est-ce que c'est consubstantiel? Enfin, moi, je considère pas ça du tout comme étant consubstantiel au développement du commerce. Ça a été une étape tragique, évidemment, dans le développement du commerce. Ça a joué un rôle important, y compris d'après un certain nombre d'auteurs, d'ailleurs, la première révolution industrielle au Royaume-Uni, parce que au fur et à mesure que l'industrie textile britannique s'est développée, s'est améliorée, disons, elle avait besoin d'intrants de plus en plus importants, hein, de coton en particulier, et le commerce lui a permis d'utiliser de plus en plus de coton sans que son prix augmente trop. Voilà. S'il y avait eu moins de relations commerciales, ben très vite, le prix de la laine et du coton au Royaume-Uni aurait monté énormément et ça aurait finalement cassé le progrès de l'industrie textile. En tout cas, c'est une thèse qui a été développée par certains analystes.
Vincent Vicard.
Moi, j'ajouterais qu'il me semble que le commerce est absolument pas une condition suffisante au développement. Et donc effectivement, on s'aperçoit qu'un certain nombre de pays, notamment l'Afrique, n'ont pas bénéficié nécessairement de leur ouverture au commerce. J'évoquais tout à l'heure la politique protectionniste des États-Unis au XIXe siècle, qui a perduré jusqu'à avant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas uniquement cette politique protectionniste ou l'ouverture au commerce qui permet un développement des pays. C'est la conjonction, effectivement, de politiques industrielles qui favorisent le développement de certaines industries manufacturières de pointe et qui permettent aux travailleurs de développer de nouvelles activités et d'innover, qui vont permettre ensuite de bénéficier des marchés, exactement comme ça a été évoqué dans le cas de l'Angleterre au début du 19e siècle, et donc de bénéficier de grands marchés pour pouvoir vendre leurs innovations et les produits qu'ils développent.
Alors, on revient à nos jours. L'Afrique se développe en ce moment, mais elle représente toujours une part infime du commerce mondial. Surtout avec des matières premières comme la bauxite, une roche utilisée pour produire de l'aluminium, et la Guinée en est le premier exportateur mondial. D'innombrables navires chargés d'énormes quantités de bauxite guinéenne sillonnent les mers à destination des raffineries d'aluminium, surtout dans les pays développés. Mais est-ce que cela contribue à améliorer le niveau de vie de la population guinéenne? La réponse avec ce reportage éco-dissieco d'ailleurs, signé Coralie Pierret à Conakry.
En partance de Boké, au nord du pays, jusqu'au port de Conakry, la capitale, plusieurs trains circulent par jour. Dans ces wagons de marchandises, de la bauxite exportée par la SMB, une entreprise chinoise créée en 2015. À elle seule, elle exportait plus de 10 millions de tonnes l'année dernière. Même si depuis 2 ans, de nouvelles sociétés s'installent et que les ventes de bauxite vers l'étranger explosent, pour Amadouba, le directeur de l'ONG Action Mine Guinée, la population voit passer les trains sans en avoir jamais profité.
On a un paradoxe. C'est inexplicable que ce pays soit encore dans une situation de précarité. Il y a des gens dans cette capitale qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas l'électricité. Les routes sont complètement dégradées et c'est inexplicable. Le secteur de la bauxite peut être un levier pour le développement de la Guinée, mais à condition que les politiques publiques soient changées. Mais malheureusement, c'est un petit clan au sein du gouvernement qui s'accapare ses richesses.
Pour 15 millions de tonnes exportées, la CBG, première compagnie de bauxite en Guinée, a versé à l'État 100 millions d'euros en 2014, environ 50 millions en 2007. Si les recettes de l'État augmentent, la baisse des prix des matières premières sur le marché mondial vulnérabilise l'économie guinéenne, selon le chercheur Hassan Diallo.
Aujourd'hui, c'est la croissance appauvrissante. Quand vous exportez, d'accord, en termes de volume, vous exportez plus, vous produisez plus, mais en termes de revenus de ces exportations, c'est bas.
Des retours assez bas et des retours aussi fluctuants.
Fluctuant aussi. Les revenus de ces ressources doivent être orientés pour l'émergence des secteurs renouvelables.
En face du port, devant le ministère du Commerce, des conducteurs de camions chargent et déchargent leurs remorques. Des minerais, mais aussi des bananes, des noix de cajou, des ananas. Pour Marc Yombono, le ministre du Commerce, il faudrait diversifier les exportations.
La tonne de bauxite, aujourd'hui, se négocie entre 35 et 50 dollars. Alors que la tonne de noix de cajou se négocie entre 1200 et 1500 dollars. En termes de commerce extérieur, c'est faire en sorte que le secteur agricole prenne la relève. Mais aussi, il ne faut pas oublier, nous sommes en train de moderniser le secteur minier. On ne peut pas laisser ce secteur-là.
Pour l'heure et pour les prochaines années, la locomotive de la Guinée reste effectivement le secteur minier. Selon le dernier rapport ITE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, les mines contribuent à hauteur de 23% à l'économie nationale.
Un reportage à Conakry signé Coralie Pierret. Alors, ces pays africains, leur insertion dans l'économie mondiale, elle passe toujours par le commerce des matières premières, Sébastien Jean?
Souvent, et d'ailleurs on a souvent parlé de malédiction des matières premières. Ça tient avant tout au fait que, disons, avoir une richesse dans le sol comme ça, ça procure une rente. Et donc les incitations que ça crée, elles sont essentiellement, d'une part d'essayer de s'accaparer cette rente, et d'autre part ensuite de la défendre, même quand c'est sous une forme, disons, un peu autoritaire. Donc ce ne sont pas des incitations qui poussent à progresser, à innover, et souvent ça crée un contexte en termes d'économie politique qui est assez difficile. Qui plus est, ça veut dire qu'on est fragile parce qu'on est exposé aux fluctuations des cours des matières premières, donc ça rend difficile, disons, le fait d'avoir une continuité dans la durée, dans la politique économique. Donc, il me semble que vraiment, il n'y a pas de relation automatique entre commerce et croissance ou enrichissement. Ça peut être un ingrédient d'une politique économique qu'il faut arriver à rendre propice. C'est vrai que quand on est comme ça, en plus avec une spécialisation sur les matières premières, c'est plus difficile de l'insérer de façon constructive dans une bonne politique de développement. Et au fond, c'est vraiment la difficulté sur laquelle ont buté beaucoup de pays africains.
Vincent Vicard, les pays africains, ils sont pas condamnés parce qu'on voit qu'ils se développent, mais malgré tout, leur part dans le commerce mondial reste minime. Est-ce que leur développement passera obligatoirement par une insertion dans le commerce mondial, ou est-ce qu'ils peuvent rester des pays qui commercent entre eux, par exemple, seulement?
Alors, les pays africains commercent assez peu entre eux. Justement, c'est aussi une des malédictions de la géographie. Ils sont pas proches des grands marchés comme l'Union européenne ou les États-Unis. Mais par ailleurs, je pense que leur insertion dans le commerce mondial, ça sera plutôt le reflet de la réussite de leur industrialisation, de leur développement, plutôt qu'un objectif en tant que tel. Et donc, ça a bien été souligné dans le reportage. C'est vraiment les politiques publiques qui doivent, au niveau national, qui doivent aider à la diversification des économies, ce qui est particulièrement difficile lorsqu'il y a une rente associée à des ressources naturelles. Mais c'est vraiment ces politiques publiques qui vont pouvoir favoriser l'insertion dans le commerce international.
Merci Vincent Vicard, merci Sébastien Jean d'avoir participé à cette émission qui est maintenant terminée, que vous pouvez retrouver sur le site internet www.rfi.fr que vous connaissez bien. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.